Bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir revenir ici, vous revoir chacun. C'est aussi une joie de voir que presque un tiers des personnes, je ne les connais pas. Et donc de voir que l'Église avance, que des nouvelles personnes arrivent. C'est aussi une joie de voir des enfants qui s'impliquent dans l'Église, de voir... Il y avait Anthony qui faisait la présentation, les PowerPoint. Il y a Frédéric qui est venu me donner un petit papier pour savoir sur quoi j'allais prêcher, pour le remplir et lui remettre ensuite. C'est beau de voir que l'Église vit et que les personnes s'engagent dans l'Église. Et ouais, c'est une joie pour moi de venir ce matin et de partager la parole de Dieu avec vous. J'aurai l'occasion de vous donner un peu plus de nouvelles à la fin du culte. Mais je propose de commencer par la parole et de commencer en nous plongeant dans ce que notre Dieu nous dit dans sa révélation pour nous. Et je vous propose ce matin de lire en psaume le psaume 2 qui va nous parler de cette royauté de notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Lisons ensemble le psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Jusqu'ici la parole de Dieu. Une expression que j'aime beaucoup utiliser quand je fais du sport ou lorsque je fais un jeu et que je fais un magnifique coup, c'est de dire « c'est qui le patron ? C'est qui le king ? C'est qui le roi ?» Et qu'est-ce que j'aime dire ça en regardant mes adversaires et en serrant le poing ? Qu'est-ce que j'aime montrer que c'est moi le plus fort ? Qu'est-ce que j'aime montrer en quelque sorte que j'ai une couronne de roi bien ancrée solidement sur ma tête ? Et que c'est moi qui dirige, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui fais tout bien en fait. Et qu'est-ce qu'on aime se sentir puissant, maître de la situation, et au final, inatteignable, soumis à personne. Mais ce psaume va nous parler d'un autre roi que nous-mêmes. Ce psaume va nous parler d'un roi contre qui toutes les nations, contre qui tous les peuples sont en rébellion. Qui est donc ce roi ? Et est-ce que ce roi existe encore aujourd'hui ? Et est-ce que nous aussi, nous sommes en rébellion contre ce roi ? Pour étudier ce roi dont le psaume nous parle, je vous propose d'avancer un peu en trois points. Versets 1 à 3, un roi, non merci, pas besoin. Versets 4 à 9, un roi bien trop fort pour moi. Et enfin, versets 10 à 12, ce roi, est-ce mon roi ? Un roi, non merci, pas besoin. Un roi bien trop fort pour moi. Ce roi, est-ce mon roi ? Ce psaume a été écrit par David et il est probablement ici question de l'intronisation d'un roi de la lignée de David, voire même de David lui-même. Et nous lisons que toutes les nations se liguent ensemble contre lui, mais que Dieu a établi ce roi, roi sur Sion, roi sur Jérusalem. Et nous lisons aussi que ce roi est présenté comme le Fils même de Dieu, que Dieu est prêt à lui donner en héritage toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous lisons que toutes les nations se rebellent ensemble contre ce roi. Et là, on peut se dire que certes, David était un roi très puissant, que les rois qui venaient juste après David pouvaient être aussi puissants, mais il semble quand même difficile de faire coller exactement ces rois-là avec le roi qui est décrit dans ce psaume. Ces rois-là ne régnaient pas jusqu'aux extrémités de la terre. Certes, ils étaient en guerre contre les nations voisines, mais pas contre toutes les nations. Ce psaume nous parle donc certainement d'un roi de la lignée de David, mais commence surtout à nous introduire ce dernier roi de la lignée de David, ce roi bien plus puissant que tous les autres rois, ce roi qui nous est présenté par la Bible comme étant encore à l'œuvre aujourd'hui. Ce roi, c'est Jésus-Christ. Ce psaume commence à nous présenter le roi par excellence, des années avant qu'il vienne sur terre, des centaines d'années. Et donc maintenant que nous connaissons un peu mieux quelle est l'identité de ce roi, je vous propose de voir ensemble ce qui se trame contre ces derniers. Et là, nous lisons au verset 1, « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se soulèvent ensemble et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. » Nous voyons ici une rébellion mondiale, une rébellion universelle. La terre entière se ligue contre ce roi, se ligue contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Une rébellion universelle. Et si cette rébellion est universelle, peut-être que nous aussi aujourd'hui nous y participons. Peut-être qu'il nous arrive aussi, nous aussi, de nous liguer ensemble contre ce roi. En fait, depuis la création du monde, l'homme est constamment en rébellion contre Dieu. Les créatures créées par Dieu veulent dominer leur créateur. Voyez Adam et Ève dans le jardin. Ils voulaient prendre eux-mêmes les décisions, choisir eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. En fait, en mangeant de ce fruit de l'arbre défendu, ils ont dit à Dieu, « En fait, Dieu, tu vois cette couronne que tu as sur la tête ? Tu vas nous la passer et ça va être nous les rois maintenant. On ne veut pas de roi, un roi, non merci, pas besoin. On veut choisir nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. On veut prendre nos propres décisions. On ne veut pas être soumis à quelqu'un d'autre. Un roi, non merci, pas besoin. » Et en fait, nous pouvons, en réfléchissant un peu, voir qu'il y a en quelque sorte deux types de rébellion contre Dieu, deux types de rébellion contre ce roi Jésus-Christ. Peut-être que nous pouvons manifester notre rébellion contre Dieu de manière assez frontale. On peut peut-être déshonorer clairement son nom en public ou dire « Franchement, Dieu, tu ne me sers à rien. Tu vois dans quelle situation tu me laisses ? » Ou même « De toute façon, je suis athée. Dieu, tu n'existes même pas. » Mais combien de fois notre rébellion contre Dieu est peut-être un peu plus subtile ? À un point que nous nous rendons à peine compte que nous sommes en rébellion contre ce roi. Oh Dieu, attends, tu vois la couronne que tu as sur la tête ? Prête-la-moi, mais juste 30 secondes. J'en ai besoin juste pour ça. Promis, je te la rends après. Et j'éviterai de te la prendre dans le futur, mais j'en aurai peut-être quand même besoin de temps en temps. Combien de fois il m'arrive de montrer une belle personne, un beau chrétien, le dimanche. Un chrétien qui ne fait pas trop de bêtises. Mais dès que la semaine reprend, il m'arrive bien vite d'oublier qui est Dieu, qui est ce roi. Il m'arrive peut-être bien vite de le limiter peut-être à une petite prière le matin, une petite prière le soir, voire même un temps où je lis sa parole. Mais dès que c'est fini, dès que la Bible est fermée, je reprends la couronne et je la remets sur ma tête. Mais que notre rébellion soit frontale, ou plutôt subtile. Elle revient dans tous les cas à dire ce que ces personnes dans ce psaume 2 vont dire au verset 3. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Voici nos revendications. Je ne veux pas de chaînes, je veux être libre, je veux rendre de compte à personne, je veux tout décider pour moi-même. Un roi, non merci, pas besoin. Le roi, c'est moi. Mais la suite de nos textes nous montre que quand cet esprit d'anti-soumission nous mène contre Dieu, on est vraiment mal. que ce roi à qui on refuse d'être soumis est en fait un roi bien trop fort pour nous. Cette scène de rébellion dans ce psaume me fait penser, à proportion peut-être bien moindre, à un groupe d'élèves se liguant ensemble pour tricher à un examen. Vous savez, pour tricher contre ce prof qu'on ne peut pas avoir, contre ce prof qui décèle toute tentative de triche. Durant l'examen, ce prof va les voir en train de parler, en train d'utiliser leur technique de communication ultra sophistiquée pour pas se faire avoir. Et il va les regarder et leur dire, peut-être en souriant un petit peu, « C'est quoi cette agitation? C'est quoi ces préoccupations dépourvues de sens? C'est quoi ces bavardages inutiles? Vous n'êtes pas au courant que j'ai tout pouvoir pour vous mettre un zéro? Pour vous faire rater votre examen? Pour vous faire redoubler votre année? Vous voyez la scène un peu ?» Et quand on lit au verset 4, « Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. » Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » En fait, ce roi rit de cette rébellion, il se moque d'eux. Il n'est absolument pas inquiété par cette rébellion, comme ne l'est pas inquiété ce prof qui doit avoir à l'heure actuelle les élèves à ses pieds en train de le supplier de ne pas mettre à exécution les menaces qu'il a faites. Dieu, le Seigneur, le roi, n'est absolument pas inquiété par cette rébellion. Il en rigole tellement elle est absurde et tellement une simple parole de sa part, nous dit le psaume, peut épouvanter et terroriser ses ennemis. Dieu rigole de cette rébellion d'un côté, mais de l'autre, ça ne l'amuse pas trop. Cette rébellion le met aussi en colère et il rappelle qu'il a établi Jésus-Christ comme roi sur cette terre, versets 7 et 8. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Et dans sa colère, Dieu rappelle que ce roi à qui il donne autorité jusqu'aux extrémités de la terre, il a aussi une mission qui est de revenir juger toutes les personnes qui ne lui sont pas soumises. Et là, c'est vraiment moins marrant, verset 9. « Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Ce roi, il a tout pouvoir et s'il le souhaite, il peut nous briser comme le vase d'un potier en une seconde. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, nous retrouvons ces mêmes expressions. Nous lisons que ce roi, Jésus, revient pour juger les nations et que ce roi va revenir pour juger les personnes qui ne lui sont pas soumises sur la terre et jusqu'à ses extrémités. Et en Apocalypse 19, verset 11, on lit « Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » En fait, on se trompe en pensant que suivre Dieu est un choix, une proposition, une sorte d'alternative à une vie sans Dieu. On croit que le pouvoir de Dieu, que son autorité se limite à ce qu'on pense de lui, à l'avis qu'on a de lui, en fait que l'autorité de Dieu dépend de nous. Que si on ne veut pas trop de Dieu, c'est ok, il sera juste là pour les quelques pourcents où on a besoin de lui, peut-être pour cette prière où on est en galère. Soit Jésus-Christ est roi, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de ok à 80%. Le pouvoir de Dieu ne dépend pas de l'avis plutôt favorable ou défavorable qu'on a de lui. En fait, c'est même nous qui dépendons de lui, et c'est même nous qui sommes soumis aux règles qu'il a établies dans ce monde. Comprenons bien le verset 9, nous sommes sa propriété, nous sommes la créature même de Dieu. Et s'il le souhaite, il peut nous briser comme le vase d'un potier, en une seconde. Un roi bien trop fort pour moi, un roi bien trop fort pour nous. Soit la couronne est sur ma tête. Soit la couronne elle est sur la tête de Dieu, elle ne peut pas naviguer d'une tête à l'autre au gré de nos désirs, au gré de la liberté qu'on veut prendre à un moment donné par rapport à Dieu. Jésus est un roi bien trop fort pour moi. Mais bien qu'étant un roi bien trop fort pour nous, il est aussi différent de tous les autres rois, de tous les autres chefs qu'on peut connaître ici sur cette terre. Il est ce roi qui a été humilié, Il est ce roi qui a été tenté. Il est ce roi qui a été insulté. Il est ce roi qui a été battu. Ce roi auquel on a craché au visage, puis qu'on a finalement cloué sur une croix, symbole des plus grands criminels. Et contrairement à ces rois qu'on connaît sur cette terre qui veulent montrer leur puissance de bien des manières, avec des richesses, des possessions, des conquêtes militaires, Jésus a montré qu'il est le roi le plus fort en devenant le roi le plus faible, humilié pour sauver ses sujets. Ce roi, est-ce mon roi? Nous avons commencé l'étude de nos textes en voyant que nous tendons tous vers cet esprit de rébellion, d'autosuffisance, d'indépendance de ce roi, d'indépendance de Dieu, et cet état même qui nous pousse à dire « Un roi, non merci, pas besoin ». Dans notre deuxième partie, nous avons vu que ce roi, que nous mettons bien trop souvent de côté, est en fait un roi bien trop fort pour nous. Qu'il rit de notre rébellion tellement elle est absurde, mais qu'il s'est humilié pour nous sauver. Et donc, posons-nous cette question. Ce roi, est-ce mon roi? Deux options, pas plus, pas moins. Soit je suis en rébellion contre ce roi et je suis, nous dit le texte, sur le chemin qui mène tout droit à la destruction. Ou deuxième option, je lui suis soumis et je suis sur le chemin qui mène au salut. Option numéro 1, si je suis en rébellion contre lui, autrement dit, si je ne veux pas lui donner la couronne de ma vie que je me suis appropriée et que je préfère choisir moi-même ce qui est bien, ce qui est mal, que je préfère choisir moi-même les commandements que j'ai envie auxquels j'ai envie d'obéir et ceux que je préfère laisser de côté. Je suis, nous dit ce texte, tout sur le chemin qui mène tout droit à la destruction, verset 12. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Ne limitons pas notre image de Dieu seulement au Dieu d'amour. Et bien sûr que Dieu est amour, et le texte que m'a mis à lire ce matin nous montre vraiment cette grande preuve d'amour que Dieu a eue envers nous. Mais Dieu est aussi un Dieu saint et il est aussi un Dieu juste. Et est-ce que nous réalisons vraiment ce que c'est que cette justice? Est-ce que c'est que cette sainteté de Dieu? Les versets 11 et 12 nous présentent peut-être Dieu et la relation qu'on peut avoir avec lui de manière peut-être inhabituelle ou de manière qu'on préfère ne pas trop relever et cacher derrière d'autres versets. Verset 11, on lit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant ». Verset 12, « Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. » Et on peut se poser cette question, mais c'est quoi cette crainte? C'est quoi ces tremblements? Est-ce que Dieu pourrait être irrité contre nous? Est-ce que Dieu pourrait s'enflammer de colère contre moi? Mais je vous propose de bien comprendre ces aspects comme découlant directement de la sainteté et de la justice de Dieu. Comment un Dieu saint pourrait tolérer le péché? Comment un Dieu juste pourrait ignorer et laisser impuni le péché? Si Dieu est saint, tout ce qui n'est pas saint est son opposé, et il s'offusque contre ça, il ne veut rien avoir à faire avec tout cela. C'est un peu comme deux aimants quand on tente de les rapprocher. Ce n'est pas possible, ça se repousse. On ne rigole pas avec Dieu. Arrêtons de le considérer à la légère. Arrêtons de venir à lui n'importe comment. Arrêtons de tolérer, vous savez, ce qu'on appelle ces petits péchés, ou même encore pire, d'après cette expression de la langue française, ces péchés mignons. Nous devrions venir vers lui, nous dit ce psaume, tout en tremblant, conscient de notre impureté. Conscient que nous ne devrions pas être acceptés en sa présence, conscient que chaque péché, aussi petit, aussi mignon soit-il, Dieu l'a en abomination. On ne rigole pas avec Dieu. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu juste. Mais réalisons aussi qu'il y a cette deuxième option, le chemin qui mène au salut, cette alternative au chemin avec une fin dramatique que nous venons de voir. Soyons aussi conscients que si nous avons rendu à Dieu sa couronne, nous sommes au bénéfice de la grâce du Dieu d'amour. Car pour préserver sa sainteté tout en aimant ses créatures, il a accompli la plus grande démonstration d'amour. Et je vous propose de la voir ensemble dans Romains 5 à partir du verset 6. En effet, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour quelqu'un de juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Soyons conscients que dans son amour, Dieu nous a sauvés par son Fils de sa colère. Dieu a rendu possible le fait d'être amour et le fait d'être saint, la colère que nous méritions. C'est Jésus, son Fils, qu'il a subi à notre place. Et peut-être que les prochaines fois que vous prierez ou que vous demanderez quelque chose à Dieu, commencez en vous arrêtant quelques secondes et prenez peut-être ce temps de silence pour vous rappeler que si vous pouvez vous approcher de Dieu, pour vous rappeler que si vous pouvez le prier, c'est parce que vous êtes et c'est parce que nous sommes au bénéfice de cette grâce. C'est parce que cette relation a été rétablie, cette relation a été rendue possible, parce que Dieu nous voit comme justes à travers le sang de Jésus-Christ. J'avais ce prof à l'Institut biblique qui priait en début de cours. Rien d'étonnant jusque-là, vous me direz. Mais il marquait ce grand temps de silence avant de commencer à prier. C'était tellement long que les premières fois, on se regardait un peu et on se demandait « Est-ce que c'est quelqu'un de nous qui devait prier en fait ?» Mais il commençait ensuite à prier en rappelant cette action de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ qui lui donne accès à Dieu et qui lui rend possible cette prière, qui lui rend possible de venir dans la présence de Dieu pour s'adresser à lui. Et quelle profondeur dans les prières de ce prof, sûrement dû à ce moment qu'il prenait pour se rappeler ce cadeau immense de pouvoir prier et de pouvoir s'adresser à Dieu. Qu'est-ce qu'on veut donc faire ? Rendre à Dieu sa couronne ou rester sur ce chemin qui mène à la perdition, vers la colère de Dieu ? On a vu deux voies, deux chemins. La voie de la rébellion, de l'insoumission à Dieu, qui nous est décrite comme la voie de la perdition où nous subirons la sainte colère du Dieu juste de se mettre en colère contre le péché et contre tout mal que l'homme fait. Ou bien est-ce que nous choisissons le chemin de la soumission à Dieu, le chemin du salut, le chemin, nous dit le texte, qui conduit au bonheur, verset 12, « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Sur quel chemin est-ce que je suis ? Ce roi, est-ce mon roi ? Ce roi, est-ce ton roi ? Mais comprenons bien ce verset 12. On lit « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Et je pense qu'on peut tous avoir en tête des personnes, ou peut-être que nous-mêmes, on a tous en tête ces personnes qui se confient vraiment en Dieu. Et c'est visible, c'est clair, il n'y a pas de doute. Mais nous voyons aussi ces personnes souffrir, ces personnes être malades, ces personnes avoir des énormes difficultés. Et on peut se dire que ces personnes sont bien loin de cette définition de bonheur, de cette définition de heureux que l'on peut avoir. Et je vous propose de voir ensemble quel est ce véritable bonheur, ce véritable heureux que Dieu promet ici aux personnes qui se confient en lui. Je vous propose de comprendre cela à travers une petite histoire que nous lisons dans Acte 4. Dans Acte 4, nous voyons deux apôtres, Pierre et Jean. Deux apôtres de Jésus, deux personnes auxquelles on n'a pas de doute, des personnes qui se confient en Dieu, et des personnes qui devraient donc être heureuses, comme nous le dit ce texte, heureux ceux qui se confient en lui. Et dans Acte 4, nous les voyons arrêtés, mis en prison parce qu'ils parlaient de Jésus. Nous les voyons interrogés par les chefs du peuple, interrogés par les grands prêtres juifs, menacés pour qu'ils arrêtent de parler de Jésus. Heureux vraiment ? Mais voyez la suite du récit. Une fois relâchés, nous allons lire leur prière dans Acte 4, versets 24 et suivants. Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, dans le psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Dans ces difficultés, que font ces deux apôtres ? Dans ces deux difficultés qui pourraient, ton pensée, les empêcher d'être heureux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient et ils prient le psaume 2. Ils se rappellent. Qui est ce roi dans lequel ils se confient ? Ils se rappellent qui est ce roi auquel ils sont soumis. Et ils se rappellent qui est ce roi qu'ils annoncent, malgré les difficultés, le rejet, la prison. Ils se rappellent qu'ils sont du côté du roi le plus fort, du roi qui possède tout pouvoir. Ils fondent leur espérance, leur bonheur, dans le fait d'avoir placé leur confiance dans le Dieu saint, dans le Dieu juste, dans le Dieu tout-puissant qui jugera et laissera éclater sa colère contre ces rois rebelles, contre ces rois insoumis. Et tout ça leur donne la force d'avancer, la force de parler de Dieu, la force de surmonter ces situations horribles. Vous voyez un peu, on peut voir un peu dans ce chapitre, cette assurance qu'ils ont et cette assurance qui est même vue par les personnes même qui les persécutaient. On lit dans Acte 4, verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance, ils, c'est les persécuteurs de Pierre, et de Jean, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Saisissons cette assurance qui réside en Jésus, le roi des rois, le roi tout-puissant. Cette assurance qui, quelles que soient les situations, les difficultés, les problèmes, cette assurance d'être du côté du roi le plus fort, cette assurance d'être soumis au roi le plus puissant, et cette assurance d'avoir notre destinée entre ses mains. Et tout cela devrait nous donner la force d'avancer et devrait nous rendre heureux. Et pour conclure cette partie, quoi de mieux que de relire le texte que Mamie nous a lu tout à l'heure, ce texte qui prend encore plus de relief avec ce que nous venons de lire. Donc dans Romains 8, à partir du verset 31, « Que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui est ton roi? Sur quel chemin es-tu? Où est la couronne? Sur quelle tête? Sur ta tête? Sur celle de Dieu? Sur celle de quelqu'un d'autre? Qui est ton roi? Et peut-être que tu te dis que c'est vraiment Dieu qui a la couronne, que c'est vraiment Dieu qui est le roi de ta vie. Mais réfléchis quand même si c'est vraiment le cas. Est-ce que Dieu n'est pas pour toi un peu un roi comme la reine d'Angleterre? Vous savez, une reine reconnue par tous les Anglais. Tout le monde dit, mais oui, bien sûr, c'est notre reine, il n'y a pas de souci. Mais au final, quel est son réel pouvoir? Quelle est la réelle influence qu'elle a dans la vie des Anglais? Pas grand-chose, un petit peu quand même. Est-ce que Dieu n'est pas pour toi un peu comme la reine d'Angleterre? Peut-être un roi comme la reine d'Angleterre. Un roi reconnu sans problème. Un roi auquel tu ne vas pas hésiter à dire, à chanter, c'est mon roi, Christ est roi. Mais en fait, un roi qui n'a pas une grande influence dans ta vie. Qui est vraiment le roi pour toi? Et quelle place un tel roi mérite-t-il dans ta vie? Prions. Oui, notre Père, merci parce que nous pouvons nous approcher de toi. Nous pouvons venir dans ta présence, t'adresser cette prière, parce que nous sommes au bénéfice de ta grâce, parce que nous sommes au bénéfice du sang qui a coulé pour nous. C'était nous qui devions mourir, mais tu es mort à notre place. Et nous pouvons aujourd'hui avoir cette relation avec toi. Et Seigneur, tu sais tout, tu connais nos cœurs, tu connais aussi cet esprit qui peut nous amener à la rébellion contre toi, cet esprit qui peut nous conduire à vouloir être nos propres rois, nos propres chefs, nos propres maîtres. Et Seigneur, nous avons besoin de toi pour avancer. Nous avons besoin que tu continues à travailler nos cœurs, que tu continues à nous transformer par ton esprit, avec ta parole, pour que nous réalisions et que nous te reconnaissions pleinement comme le roi des rois, comme notre sauveur et notre maître. Agis et transforme nos cœurs pour que nous puissions te ressembler davantage et pour que nous puissions te plaire et t'obéir. Amen.